Oui, je teste là. Est-ce que ça fonctionne? Tu as du son? Tout est bon? Ouais. Ça marche là? Niveau est suffisant? C'est bon? Tu veux que je dise encore quelque chose? Un, deux, trois. Voilà, les amplis sont allumés, après le petit déclic. Tu mets quand même le son dans la salle. Ouais. Bonjour, bonjour à chacun, soyez les bienvenus. Je vous salue, salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous sauve en Jésus-Christ. Alors, comme d'habitude, comme ces derniers dimanches, je ne vous vois pas. J'ai pas d'écho, j'ai pas de sensation de ce que vous dites ou ce que vous pensez. Mais vous êtes peut-être bien assis sur votre canapé. Vous êtes confortable, vous êtes tranquille devant votre écran, peut-être même avec un café. Alors c'est très sympa de se retrouver, c'est très utile, c'est même édifiant de se retrouver un instant devant notre Dieu. Alors progressivement, on va sortir de ce confinement, nous l'espérons bientôt, on va sortir de ce tunnel. Est-ce qu'on aura peut-être dimanche prochain un culte en église? Je ne le sais pas, mais ça se discute. Mais finalement, qu'est-ce que c'est un culte? Un culte, c'est simplement adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Si on lit les évangiles. Alors, ce dimanche, c'est le dimanche de l'Ascension. On va en parler longuement ce matin avec Claude Bécher qui nous accompagnera dans la prédication. Donc, vous vous rappelez qu'il y a eu Pâques, la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, il y a l'Ascension, sa montée au ciel, on va en parler aujourd'hui. Et une semaine après, la Pentecôte. Alors, pour un scientifique comme je suis, qui a fait des études techniques, qui connaît la loi de la pomme, la loi de Newton, la relativité de Einstein, et qui a eu le privilège de visiter le CERN il n'y a pas longtemps, comment comprendre, interpréter ce qui s'est passé? Ce n'est pas évident pour un scientifique qui n'a pas une relation évidente avec ce que l'on croit, ce que l'on sait. Alors, si on regarde dans Genèse 1, qui est un texte très ancien, il est dit, le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Ou si on le traduit autrement, l'esprit planait. Et comme m'a dit Claude, planait, ça voulait dire couvait. C'est-à-dire que c'est comme une poule qui couve ses œufs. Donc le Saint-Esprit était déjà là et il s'occupait déjà de la terre et de tout ce qui l'environnait. Alors ce qui nous est révélé là, c'est qu'au début, le monde était connu déjà du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était là et qui a créé et qui était présent dès le début. Maintenant, ce Saint-Esprit, il était capable de ressusciter Jésus-Christ, hein, je l'ai dit tout à l'heure. 40 jours après, il va faire monter Jésus au ciel. On va voir ce que ça veut dire. Et puis 10 jours après cette montée au ciel, il y aura la distribution des langues de feu et du Saint-Esprit en abondance. Alors cela dépasse mon entendement, ma compréhension scientifique, mais cela entre dans ma foi que j'ai en mon Seigneur. Et aujourd'hui, 2000 ans après, est-ce que tout cela est fini? Est-ce que ce souffle de Dieu qui est venu, est-ce que cette dynamite du Seigneur est encore là? Hein, je vous le demande. Alors je ne vous entends pas parce que il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de retour. Mais est-ce que votre foi permet certainement de voir encore aujourd'hui les interventions de la puissance de Dieu? Son esprit vous permet de comprendre. Ouvrez les yeux et vous verrez. Même pour un scientifique en Jésus-Christ, je suis comblé, heureux d'être en sa présence tous les jours de ma vie. Je voulais vous partager un psaume, c'est le psaume 8. les versets 4 à 7. D'ailleurs, c'est un chant que vous connaissez certainement. « Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui ? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis sous ses pieds. » J'inviterai à prier avant la suite. Oui, Seigneur, nous te prions de nous ouvrir les yeux de notre cœur. Donne-moi de te voir dans ta main, sur ma route. Ouvre mon intelligence pour qu'elle saisisse qui tu es, que je devienne témoin de ta force et de ta grandeur. Seigneur, nous te demandons de bénir ce culte et de permettre qu'il soit vraiment à ta gloire. Amen. Alors, pour introduire le message de Claude, il y aura deux textes. Je vais en lire un déjà qui est dans Actes. Actes, les versets 8 à 11. Donc, c'est le tout début des Actes. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, je vais passer la parole à Claude, le remerciant pour toute sa préparation et pour tout ce qu'il va nous dire.
Frères et sœurs en Jésus, j'aimerais bien vous prendre dans les bras, vous faire un baiser de la paix. Mais en attendant, nous avons recours à ce moyen de communication qui est celui-ci. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Son ascension, un ciel dégagé des puissances asservissantes ». Vendredi, il y a deux jours donc, j'ai vu une affiche. La voici. Elle porte comme titre, et c'est exprès pour le temps du Covid, « On ne dit pas, loin des yeux, loin du cœur ». Mais loin des yeux, près du cœur. C'est une affiche que j'ai trouvée près des HUG à Genève, des mots pour sauver des vies. Prenez soin de vous. Loin des yeux, près du cœur. Comme lors des confinements, loin des yeux, nos amis, les proches, la famille. Loin des yeux. Peu de visites physiques. Et on attend. L'ascension aussi a quelque chose en rapport avec ceci. Jésus va partir, loin des yeux du corps de Christ, mais par son esprit envoyé dans le cœur et dans le monde entier depuis 2000 ans, c'est proche du cœur. Les trois étapes de cette prédication, il y en a une, c'est pour la tête que le Seigneur nous a donnée. Il y en a une autre, c'est pour le corps entier et son engagement. Et il y en a une troisième, c'est pour consolider l'espérance. Et ces trois servent le Seigneur. Le premier, c'est Jésus dans les cieux. Qu'est-ce que c'est que ce lieu-là ? Le deuxième, c'est, il est dit, que son règne au-dessus des pouvoirs, une sorte d'intronisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et enfin, notre espérance ancrée dans ce Christ qui règne aujourd'hui. Et une prière. Un texte a un contexte. Nous l'avons lu, merci à Daniel, 40 jours après la crucifixion et la résurrection. Jésus mis à mort, roi des Juifs. Échec de tout un programme en apparence, mais le programme recontinue puisque la mort n'a pas eu le dernier mot et Jésus s'est montré vivant et a dit que le programme continue. Le règne de Dieu, de plus belle du reste, celui qu'il a inauguré, se poursuit. Et la portée de la résurrection pour nous se dévoile alors dans le récit que nous lisons, lié à ce qu'il faut comprendre de l'ascension. Je lirai maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24, versets 50 à 53. Nous avons lu Actes, chapitre 1. Luc 24. « Et moi, dit Jésus, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire l'Esprit, pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut, revêtus de puissance. » Puis, il amena les disciples jusque vers Béthanie, et là, levant les mains, il les bénit. Et comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Jusqu'à là, la lecture seconde de la parole de Dieu. Alors, le ciel, les cieux. Je suis allé dans une église catholique en Italie, j'ai pris une photo d'un essai de représentation de la scène. On s'imagine difficilement cette sorte de porte vers un autre lieu où tout d'un coup il se dissout dans l'air et il part. On s'imagine très difficilement, on voit ici Marie, les apôtres, et puis un homme qui va vers les nuées. Quand il y a nuée, c'est que l'image n'est pas très nette, mais c'est aussi un symbole de la gloire de Dieu. Difficile de se représenter la scène montée au ciel, comme l'a dit Daniel. Il y a pourtant quelque chose que j'aimerais vous amener, et peut-être ça vous donner un peu le tournis. Aux cieux, regardez autrement aux cieux. Jésus, ressuscité corporellement, est aux cieux. Ciel, est-ce que c'est spatial? On sait que Spoutnik est allé autour de la Lune, ils n'ont pas rencontré Dieu. Le Dieu créateur, du reste, le psaume dit, les cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. Comment voulez-vous qu'ils soient localisés dans un endroit de ce qui est finalement sa création? J'ai le tournis. Malaise. En un temps où le ciel visible semble en voie d'exploration, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Mais j'aimerais juste vous dire, ne projetons pas de la naïveté dans les Écritures. Même dans le monde ancien des Grecs, les gens n'imaginaient pas les cieux comme un lieu là-haut, localisable. Nous, parfois, oui. Les Anglais sont plus futés que les Français lorsqu'ils traduisent « cieux ». Ils ont « heaven » pour le lieu théologique et ils ont « sky » pour le lieu physique. Nous avons, pour ce mot-là et cette fois-là, qu'un seul mot. À l'ascension, nous dit le texte, Jésus est monté. Monté auprès du Père. Celui qui fait cela, il est monté comme un souverain sacrificateur qui rentre dans le temple pour faire l'expiation des péchés du peuple. Mais plus que cela, nous le verrons. Un homme sacrificateur nous écoute. Dans le ciel, il y a un homme. Et ça, ça dérange encore plus. Il y a un homme dans le ciel. Et ce n'est pas avec une navette spatiale. On se dit, mais est-ce qu'on est devant un roman de science-fiction? Et c'est là qu'il faut dire la sobriété du texte et certainement pour nous, la portée de ce texte pour chacun de nous, jeune ou moins jeune. Là, avec Jésus, le ciel et la terre sont reliés. Il y a un homme dans le ciel. Et bientôt, il y a l'Esprit de Dieu sur la terre. l'humain, le corps de Jésus, glorieux certes, mais le corps de Jésus et le ciel s'interpénètrent, une sorte de communion restaurée des sphères par Jésus. C'est de là qu'il peut nous envoyer l'Esprit. Remarquez, il n'a pas commencé à envoyer l'Esprit et ensuite il a enseigné. Il a enseigné, il a vécu, il a aimé jusqu'au bout, il est mort, il est ressuscité. Et c'est alors qu'il envoie sa mentalité, son esprit, quelque chose qui rejoint ce que Daniel nous a lu au début. Et l'Esprit de Dieu couvait sur la surface des eaux et il y eut une création. Là, c'est une nouvelle création. Il nous prépare une place, mais c'est une place auprès de lui. Même l'apôtre Paul, pour que nous précisions bien qu'il n'entend pas un lieu localisable dans le ciel, il dit « Nous sommes assis dans les cieux. » Nous, croyants, vivants, aujourd'hui, sur la terre. Vous voyez bien que la posture est théologique. La posture, elle est une identification en Jésus, plus qu'une problématique géophysique. Les deux sphères s'interpénètrent. À Pentecôte, l'Esprit de Jésus fait irruption dans les disciples. C'est l'équivalent de l'Esprit de Dieu qui remplit le temple. Avec Jésus et l'Esprit, une nouvelle création paraît. Jésus et son peuple remplis de l'Esprit constituent un nouveau temple sur la terre. L'Esprit est de nouveau actif sur la terre. J'ai une sorte de représentation d'un ciel. Il y a certes une nuée, mais c'est bien confus. On voit l'univers physique, mais il y a maintenant ce même univers dans lequel on va rentrer, qui est un univers spirituel, mental. Il fut élevé pendant qu'il le regardait, dit Actes 1, 8, 9, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et avez-vous remarqué, je l'ai accentué dans la lecture, ils furent remplis de joie. Ils avaient compris quelque chose que peut-être nous, qui ne sommes pas remplis de joie à l'idée que Jésus nous quitte, et c'est ce quelque chose que l'on veut essayer de méditer. C'est lié toujours à Jésus, sinon il ne serait pas rempli de joie, à un autre mode de la présence de Jésus par l'Esprit. Sa mentalité présente partout chez les disciples, et non seulement à Jérusalem, mais à partir de Jérusalem, mais aussi à Samarie, mais aussi en Grèce, mais aussi à Rome, et jusqu'en Helvétie et en Barbarie, et chez les Celtes, et chez nous. Son même esprit, présent dans le temps et dans tout l'univers géographique cette fois-ci. Notez, au sujet du ciel, et c'est peut-être, on n'ose pas le dire, mais il faut le dire, au sujet du ciel et de la terre, c'est pas parce que le Christ est dans les cieux que le but de notre vie chrétienne est de le rejoindre au ciel. On l'a trop dit ceci et j'essaierai de vous dire pourquoi tout à l'heure. Au contraire, depuis que Jésus est intronisé, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous voulez, on retrouve l'interpénétration voulue. Le but n'est pas un ciel dématérialisé. Le but de l'Écriture, c'est un monde où la justice habite, un monde nouveau, des cieux nouveaux. Mais même quand on dit cieux nouveaux, ça veut dire des cieux déblayés, débarrassés de tous les parasites qui veulent essayer de mener les humains par le bout du nez. C'est ça le sens de l'ascension. Depuis son intronisation au-dessus des pouvoirs, notre représentant qui apporte le sang de l'Alliance, qui nous amène le pardon, qui nous envoie son esprit et qui règne aujourd'hui aussi encore, ce roi sacrificateur préside à l'extension de son règne et le programme continue sur la terre pour les vivants. Et c'est là qu'il y a l'incroyable, aussi pour les morts en Christ. Ils sont concernés. J'y viendrai. Alors, l'idée que Jésus humain soit maintenant au ciel dans son état de ressuscité parfaitement incarné, choque de nombreuses personnes, y compris de nombreux chrétiens. Et je connais même des gens qui, n'osant pas le dire, vont renier la foi en disant « finalement, c'est des fables », sauf si cette dimension les pénètre. En effet, notre culture est tellement habitée par l'idée d'une philosophie grecque qui s'appelle le platonisme, qui dit que le paradis est, par définition, le lieu de la réalité spirituelle non matérielle. Du coup, nous en avons été largement influencés et nous ne savons finalement plus trop quoi espérer et attendre, même si les promesses sont dans l'Écriture. Et les promesses sont plus belles que ce que nous croyons. Spirituel n'est pas opposé à matériel, jamais dans la création de Dieu, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Spirituel est opposé à charnel, et il ne faut pas confondre. Deuxième point. On a compris le premier, sur les cieux. Le deuxième. Pour introduire le deuxième, Jésus est monté au-dessus des autorités des puissances, je lis, ou plutôt j'invite Daniel à me rejoindre et lire cet extrait très intéressant de l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 1 et au verset 20b à 23.
Quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous les croyants. Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné au sommet de tout pour tête de l'Église qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit tout en tous.
Merci beaucoup. Dans cette citation, j'ai mis deux parenthèses. Ce sont les citations du psaume 110, verset 1. C'est un psaume royal. Asseoir à sa droite, à la droite de Dieu. Et ensuite, le psaume 8, dont nous avons lu un extrait en introduction. Il a tout mis sous ses pieds, bien au-dessus de ce que l'apôtre Paul appelle les autorités, les pouvoirs, les puissances et les souverainetés. Alors, si vous associez dans votre cœur et de votre tête ascension de Jésus égale intronisation, c'est-à-dire au-dessus des pouvoirs malveillants, vous faites bien. Pour les disciples de Jésus, la partie ne se montre pourtant pas facile, même après l'ascension de Jésus. S'il est au-dessus des pouvoirs, il y a des pouvoirs à l'œuvre encore. Et du temps des apôtres, il y avait Étienne qui sera lapidé par des pouvoirs politico-religieux. Il y aura, dans Actes 6 et 7, Paul qui, à Athènes et à Éphèse et dans un autre pays, va être malmené par des pouvoirs. Même si, de toute évidence, en Palestine du temps de Jésus et des apôtres, Hérode et César, bien au-dessus, il y a César, n'oubliez pas, si il y a Hérode et César sont restés sur leur trône encore pour un temps, ils confrontent dans l'amour et annoncent le règne de Dieu en Jésus, même à César, même à Hérode. Au-dessus des pouvoirs. Ils vivent quelque chose que ni Hérode ni César n'ont demandé, la fraction du pain avec tout le monde. C'est-à-dire l'attention mutuelle, une qualité de l'être ensemble sous l'autorité de Jésus. Et ensemble, et parfois, ils payent de leur vie, c'est vrai. Mais ils savent que ce n'est pas le dernier mot. Et ils le savent pourquoi ? À cause de Jésus. Il y a une représentation qui a été faite, qui est des plus moches, mais à défaut d'autre chose. Au-dessus des pouvoirs, il fait du ménage. On voit un trône, on imagine une couronne, oui, une intronisation, et ensuite des drôles d'êtres qui vivent avec un peu ailés. Je ne suis pas sûr du tout que c'est des représentations physiques des choses, mais en tous les cas, on voit que certains perdent leur piédestal où ils s'étaient élevés, placés. Et ça nous permet de parler de ces pouvoirs. Jésus, au-dessus des pouvoirs asservissants. Les pouvoirs et les autorités sont des forces. Ces forces sont capables de faire quelque chose. Des structures humaines ou des esprits, des structures humaines animées par des esprits. Aujourd'hui, la puissance de l'argent est une de ces structures humaines qui fait que, à cause de l'avidité, c'est une vraie idole qui fait courir beaucoup de gens et rend esclaves beaucoup de gens. Jacques Ellul, qui est un sociologue protestant, maintenant décédé, disait « Ces autorités, ces puissances sont une puissance spirituelle qui habite le corps de l'État ou d'une structure. » Ou Frédéric de Coninck disait « C'est l'arrière-monde qui pèse sur la vie sociale. » Au-dessus des autorités, il est à la droite de Dieu, au-dessus. Ça veut dire qu'il est le souverain. Et qu'il discipline ces autres structures. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais étant révoltées, elles tordent les choses. Par exemple, la passion, l'accumulation de l'argent, on pourrait passer d'autres choses. Jésus va ôter leur rébellion aux idoles, aux puissances méchantes qui séparent, sèment la haine et la discorde, isolent les gens des uns des autres. Le Christ reprend le pouvoir usurpé. Il fait des dons en restaurant une vraie humanité. Voilà le programme. Pourtant, Jésus était crucifié. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 8, qu'on voit que sous Pilate et Hérode, Jésus, innocent et aimant, il est dit de lui, « Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, cette sagesse de Jésus. » Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Là, on voit qu'il y a quelque chose que ces autorités doivent intégrer pour devenir des vrais serviteurs de Dieu et pas des serviteurs du diable. Vous voyez, la croix au cœur de notre foi, c'était plus que la liquidation, encore une, d'un jeune juif qui se révoltait. C'était déjà la victoire de la puissance de l'amour, sur l'amour de la puissance, la croix. Maintenant, les effets de cette résurrection dans cette vie. Parlons de cette vie avant de parler, troisième chapitre, de la vie à venir. Les preuves de l'irruption, de la nouvelle création, que l'Esprit de Dieu refait du neuf, une nouvelle création, c'est visible aujourd'hui. Des gens qui se disputaient, qui se réconcilient. C'est des gens qui ne se fréquentaient pas et qui vivent la communion. Pas seulement ici, parmi certains nantis, mais aussi entre des entités plus pauvres dans d'autres pays. Une sorte de collecte de solidarité que des Grecs font du temps de Paul pour assister les gens dans la famine de Jérusalem. Il y a des signes tangibles, il y a tous ces signes de repentance qui permet la bienveillance. L'esprit envoyé, c'est la puissance qui permet de surmonter, de vaincre des forces d'asservissement et d'être enfin, en nous, ici, présents, les témoins de Jésus, de son règne et d'une folle espérance. Jésus a un rapport avec les micro-forces. Quand je mets micro-forces, il est au-dessus de certaines choses qui peuvent vraiment nous conduire, qui nous assaillent. La colère, les jalousies, la convoitise, l'envie, l'avidité, le désespoir, ce que les pères de l'Église ont appelé les passions ou les daimons, démons. Mais il est aussi au-dessus des macro-forces, c'est-à-dire les forces du légalisme, de la suffisance, de la corruption, les discriminations, le nationalisme, les dépendances, qui sont des principautés et des puissances. Il est au-dessus de ces puissances. C'est le troisième point, et j'y arrive parce qu'elles doivent nous aider aussi bien jeunes que moins jeunes et renforcer l'espérance qui est la nôtre. Je le lis dans 1 Corinthiens 15, et au verset 52 à 54. avec comme sous-titre « Notre espérance, revêtir à notre tour l'incorruptibilité du corps de Jésus ». Je lis « Les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons transformés en un clin d'œil. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc, dira Paul, cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus le Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Jusque-là, la lecture et puis un commentaire. Cette espérance dont nous avons parlé, de la résurrection et de l'intronisation de Jésus, cette espérance est ancrée en lui. Même si pour nous, le dernier ennemi, c'est la mort, 1 Corinthiens 15, verset 26, même si les puissances rebelles ne sont pas encore entièrement soumises à Jésus, nous sommes les témoins d'une terre où les choses sont remises en ordre. Votre peine, travail n'est pas vaine dans le Seigneur. Ce qu'on vit dans notre corps, maintenant, aîné ou pas, malade ou bien portant, blanc ou noir, pauvre ou riche, ce que l'on vit dans notre corps n'est pas indifférent. Dieu, par Jésus-Christ, a revalorisé le corps. Tout est suivi des faits. L'aboutissement de ce qui est esquissé dans la foi en Jésus est promis lors du retour promis du Seigneur. Ça me permet de lire Colossiens, dernière lecture. Chapitre 3 et versets 1 à 4. Du moment où, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est dans cet ordre, en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, et non votre but sur la terre. Vous êtes mort en effet, rappelez-vous le baptême, mort en Christ, ressuscité, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité qui est une idolâtrie. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Alors, on arrive vers un certain nombre de choses importantes. Quelle espérance nous avons de pouvoir continuer dans la résurrection des morts à le servir. Ne manquons pas d'entraînement dans cette vie ici. Jésus, incarnation est le moyen d'une nouvelle création et la réconciliation de ce monde. Deuxième chose apprise, même le matériel de la création, nos corps, est transformé, réorienté par le règne de Jésus et son esprit. Jésus a chassé, troisième leçon, le dominateur, l'accusateur, le trompeur, le mauvais, l'ennemi, le corrupteur. Il a été vaincu par Jésus sur la croix sans plus avoir de puissance contre lui. On peut alors, dès à présent, goûter à cette nouvelle qui libère des asservissements. Nous sommes en route, frères et sœurs, vers une terre promise. L'exode ne sera complet que lorsque la mort elle-même, un jour, sera vaincue. Alors, je reviens à mon affiche du début. Loin des yeux, mais proche du cœur. C'est valable pendant la pandémie. Il vaut mieux pas se donner le virus. Mais avec espérance, Jésus nous promet sa présence Pentecôte, dimanche prochain, sachons redire Seigneur, renouvelle-moi. L'esprit, l'espace de Dieu et le nôtre s'entrecroisent et se croisent de multiples façons dans notre vie chrétienne. Même s'ils conservent du moins pour le moment leur identité et leur rôle distincts, un jour, ils seront unis d'une manière tout à fait nouvelle, le ciel sur la terre, comme nous dit les derniers chapitres de l'Apocalypse. Je vis une ville, la Jérusalem céleste, qui descendait d'auprès de Dieu. C'est l'un qui interpénètre l'autre. Ils seront unis d'une manière tout à fait nouvelle, ouverts et visibles l'un pour l'autre, mariés ensemble pour toujours. Je cite ici N.T. Wright dans « Surpris par l'espérance », un livre excellent que je vous recommande. Alors, dès lors, quelle espérance pour nous ? Je vous cite quelqu'un que j'ai devant moi sur mon bureau depuis plus de 30 années, tellement ça me paraît important. C'est un monsieur qui s'appelle Schrott. Ce n'est pas une consonance latine, qui disait « Nos maisons ne sont pas construites pour l'éternité ». C'est des maisons de briques et de pierres. Mais ce qui a valeur d'éternité dans ces maisons, dans ces corps aussi, peut s'y produire. Ce qui demeurera, même quand les murs seront détruits. Augustin d'Hippone, saint Augustin, dit la tradition, tellement influent, nous a dit « Tu es monté aux cieux, dissimulé à nos regards, et nous, nous sommes tourner, attristé, pour soudain te découvrir dans nos cœurs. » En montant au ciel, Jésus prend effectivement un risque, celui d'être oublié. À notre tour, de poursuivre son œuvre, ensemble, par l'Esprit et la parole. La mission du corps du Christ continue en ses membres dans un monde égoïste. Il se cherche un corps. Le tien, mon frère, le tien, ma sœur, de quelque âge que tu sois, le mien, mais aussi le corps de l'Église. Je vous invite à une prière. Seigneur, on prétend que tu es quelque chose au-dessus de nous, mais tu es quelqu'un au-dedans de nous et parmi nous. Et jeunes ou moins jeunes, nous t'en remercions du fond du cœur. Apprends-nous, Seigneur, à vivre avec toi à la droite du Père, à te faire confiance, à marcher avec toi dans toutes les circonstances de notre vie, dans la perspective de ton règne. Et pour cela, apprends-nous à détrôner les autres pouvoirs pour qu'ils trouvent leur juste place. Apprends-nous ton regard sur nous, nos actions et sur autrui, dans l'espérance de ton retour, et avec lui, des nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. Viens, Seigneur Jésus. Amen.
Voilà pour les questions d'annonce de la part du Conseil et des responsables de l'Église. Donc, vous savez qu'il y a un groupe de travail qui s'est constitué avec un contact très étroit avec le Conseil de notre Église et qui étudie la reprise des cultes en présentiel. Pour moi, c'est un mot nouveau. Donc, est-ce qu'on peut refaire des cultes ici à Mérin ? Et en suivant les recommandations des autorités et aussi des recommandations de l'AFRE. Lorsque le Conseil nous demande, c'est de vraiment prier pour qu'ils sachent que faire, comment faire, si jamais le prochain culte, dimanche prochain, aura lieu ici. Ce n'est pas gagné d'avance, mais peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir. Maintenant, une annonce qui se fait régulièrement, c'est au niveau du soutien financier. Vous savez que nos pasteurs et tous les frais qu'il y a dans l'Église sont couverts uniquement par vos dons. Donc, je vous rappelle que vous pouvez allez sur le site internet et vous trouverez les coordonnées pour faire vos versements. L'équipe pastorale et le conseil restent bien sûr à disposition de tout le monde. Et si vous voulez les contacter, n'hésitez pas à le faire et vous trouverez les coordonnées sur le site de Mérin. Les prochains jours, vous recevrez chacun les documents nécessaires pour le colloque. Et cette fois, ce sera un colloque exceptionnellement qui se vivra par correspondance. Donc, vous aurez toutes les informations pour vivre ce colloque. Et je vous rappelle que vous avez reçu récemment un sondage pour le groupe de recherche du pasteur et qu'il ne faut pas oublier de le remplir. Et une fois que vous l'avez rempli, c'est de l'envoyer également. Vous pouvez l'envoyer par email. Voilà, c'est tout pour les annonces. Je repasse la parole à Claude pour la bénédiction.
Grâce à la technique, l'occasion nous est aussi donnée d'entendre les chants, de fredonner avec, peut-être de chanter avec. Que Dieu bénisse ces prières chantées également pour chacun. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune. Vivons sa paix pleinement. Dans l'espérance. Amen.